Mettez-vous là. Voilà, c'est toi. Bon, merci pour cet exposé qui nous fait déboucher, qui m'apprend en tout cas beaucoup de choses sur l'évolution de la critique américaine. Bon, et peut-être que c'est un paradoxe de voir la théorie du chaos essayer sur des textes prétendument transparents, comme ceux de Zola, précisément. Enfin, c'est une autre occasion, je veux dire prétendument, parce que je ne les crois pas. Je crois que Marivaux soit plus transparent que Zola. Mais enfin, c'est une autre question. Bon, alors, on y va pour la discussion et la période de questions, comme on dit, sur ces deux premiers exposés. Je vous rappelle que nous devons avoir terminé la séance aux alentours de 18h, un tout petit peu après, puisque la réception et l'inauguration de l'exposition Zola Photographe, qui est pas loin d'ici, mais enfin il faut quand même 10 minutes pour s'y rendre, ne souffre pas de retard. Bon, donc un quart d'heure si vous voulez à peu près, on tiendra dans les délais. Alors, la parole est à qui la demande ? En espérant qu'elle sera demandée de multiples fois. Pardon, oui, toi, tu vois mieux que moi. D'accord, merci, pardon, excusez-moi.
Non, je n'y ai pas pensé, mais ça serait très intéressant parce que c'est très nouveau pour la littérature. J'ai avec moi d'ailleurs un exemplaire du premier volume consacré à l'application de la théorie du chaos à la critique littéraire. Ça s'appelle Chaos Bound, c'est paru au mois d'avril cette année. Cornell University Press, c'est de Catherine Hales, H-A-Y-L-E-S. Mais ce que vous suggérez, c'est très intéressant parce que ça pourrait combiner à la fois la théorie littéraire et l'analyse littéraire avec l'utilisation de la théorie du chaos pour l'analyse justement de la bourse dans la théorie de l'économie politique aux États-Unis maintenant. Des gens comme William Brock, qui est spécialiste dont la discipline est l'économie politique, est spécialiste de l'application de cette théorie du chaos à ce domaine-là. Donc je crois que ça pourrait être très intéressant. J'aimerais aussi répondre à M. Duché pour la transparence. Quand je parle de la transparence, c'est pas du tout que je dis que je prétends que le texte de Marivaux est simple. Je parlais de l'archétypologie. Et du point de... Si vous cherchez des archétypes, n'est-ce pas, dans le texte de Marivaux, bon, tout simplement, par comparaison avec le texte de Claudel, n'est-ce pas, vous en trouverez beaucoup moins. C'est tout ce que je voulais dire.
Une sorte de géométrie des figures par rapport à la complexité baroque.
D'accord.
Mais je veux dire qu'il y aurait les mêmes effets de contraste. Je veux dire, non, souvent, mais je ne veux pas usurper la parole, souvent les textes zoliens, je sais que depuis 10 ans, la critique zolienne est en train de faire apparaître d'autres Zola qui sont toujours dans le texte, d'une certaine façon, même si quelquefois ils surprennent, que ce qui a été longtemps réputé comme l'archétype du roman réglé, comme on se parlait ce matin de la géométrie des figures dans la bête humaine, de l'organisation des points de perspective, etc., etc. Donc comme un univers d'une certaine manière dominé, transparent, etc. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Et que la théorie du chaos appliquée à Zola, c'est aussi intéressant, mais ça entre dans cet effort depuis une bonne dizaine d'années maintenant de rendre le texte zolien en dépit de lui-même quelquefois à ses comment dirais-je, ses potentialités ou ses énergies internes ou ses désordres internes. Enfin bon, donc c'est, à ce titre, c'était intéressant. J'ignorais le développement actuel de ces recherches dans cette perspective-là. Et pour ajouter un mot, puisque Madame citait la bourse, je pense qu'il y a un roman, en tout cas, moi ça m'intéresserait d'y aller voir. Comment ça se présente, parce que j'ai eu à m'en occuper l'an dernier et je ne sais pas bien le maîtriser, c'est la débâcle. Je veux dire, en ce qui concerne précisément le récit de guerre et cette écriture de la guerre chez Zola, où il s'agit bien de dompter, de dominer un chaos, et où les images du chaos sont absolument thématisées, fréquentes, etc. Bon, et où il s'agit d'imposer malgré tout un ordre narratif à ce qui est à proprement parler inénarrable et infigurable.
Oui, je crois qu'un projet important, il me semble, c'est de passer du thème du chaos, n'est-ce pas, à une analyse qui serait consacrée à l'analyse, comment dire, des formes du roman, de la structure, etc. Comment dire, en fonction de principes formels tirés de là où puisent dans la théorie du chaos. Parce que le thème du chaos, bien sûr, n'est-ce pas, nous avons, il y a une tradition très développée de critique thématique, mais à ce moment-là, ça ne serait plus la théorie nouvelle du chaos, ça serait simplement, n'est-ce pas, la critique thématique traditionnelle.
Peut-être rappeler le titre de Hugo, Chaos vaincu. Emblématique. Bon, allez. Bon, d'accord.
C'est peut-être une question très naïve. Pardon? Je n'étais pas du tout au courant de la théorie du chaos en rapport avec la littérature non plus. Alors, puisque chaos et carnaval, ça peut avoir des éléments courants, est-ce que dans cette application de la théorie du chaos, on a fait des rapprochements entre Bakhtin, des angles de la théorie de Bakhtin, ou non?
Non, en fait, Madame Hales, qui a l'intérêt d'avoir été chimiste avant de devenir professeur d'anglais, donc c'est un avantage, parce que c'est une théorie qui vient des sciences. Elle ne parle pas de Bakhtin, mais je crois que vous n'êtes pas la première à penser à ça. Je crois que vous avez raison, je crois qu'il y aurait des choses à faire dans ce domaine. Mais moi, je ne peux pas vous répondre par quelque chose de plus profond, je suis désolé.
Monsieur Zoïla.
Oui, je voudrais poser une question à Monsieur Grivel. D'abord à propos des illustrations. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez fait votre exposé, mais je voulais vous demander si vous aviez pensé, à côté des images visuelles, aux images acoustiques. Parce qu'au fond, vous citez l'exemple. C'est vrai, quand on dit image, on pense qu'au visuel, mais enfin, il n'y a pas que le visuel, surtout aujourd'hui. Et surtout que vous avez pris cet exemple où vous prêtez à Claude les murmures de ce qu'il entend derrière le paravent, alors qu'en réalité, c'est le narrateur, n'est-ce pas, qui, au fond, met en récit, fait un exercice d'écriture, mais qui capte des bruits, des murmures, des froissements, etc. Enfin, c'est la place de l'écoute. Hein. Moi, vous dites que vous n'avez pas d'image, moi, j'écoute le texte plus que je ne le vois. Maintenant, j'ai été très intéressé, je groupe les deux, s'il vous plaît. J'ai été très, très intéressé par ce qu'a dit M. Patrick Prady. Et alors, en anticipant un peu sur ce que je dirais moi-même demain matin, je dirais que pour moi, Claude Lantier est fou. Et je défendais cette théorie d'une psychose maniaco-dépressive. Or, précisément, quand vous dites l'ordre chaotique qui est le sien, c'est l'ordre maniaque, n'est-ce pas? Autrement dit, il y a deux ordres dans la maniaco-dépressive. L'un qui a été trouvé vers 1932 par M. Ludwig Wieswanger, il décrivait la fuite des idées, n'est-ce pas? C'est cette difficulté à courir après les images, après les idées, à achever, que j'ai remarqué dans mon analyse du texte tel que je la présenterai demain matin. Bon, discontinuité, sautillement, coupure, fragmentation, voilà cet ordre chaotique qui est l'ordre maniaque. Alors, dans les phases mélancoliques, lorsqu'il est soumis à une inhibition, où il ne fait rien, où il reste paralysé, alors là, nous avons, mais pas chez lui, parce qu'il n'est pas évidemment le vrai mélancolique monopolaire, Mais nous aurions un ordre, mais un ordre qui serait alors un ordre contraire. Enfin, en quelque sorte, métaphoriquement, ça renverrait à vos deux oppositions, puisque vous opposez ordre des ordres. L'ordre étant supposé comme une succession linéaire, bien enchaînée, rigoureuse, enfin celle que vous prêtez à Sandoz, et que je lui prêterai aussi d'ailleurs. Mais le désordre, au fond, est un ordre chaotique. Voyez-vous, c'est extrêmement... Je ne connaissais pas non plus l'utilisation des théories de Poincaré, René Thom, du chaos en littérature. Je m'y intéresserai. Enfin, là, nous pourrons en reparler demain matin, mais c'est tout à fait dans cet ordre chaotique que je situerai cette évolution maniaque de Claude Lantier, hors de toute assimilation et toute anecdote.
Oui.
Merci.
Alors, vous d'abord, excusez-moi. Dans quel ordre, comme vous voulez.
Oh, dans un désordre. Dites, évidemment, quand vous me faites rappeler que si on parle image de vue, il faudra aussi parler de celle qui viennent à l'oreille, et bien sûr, après, celle que le nez suggère, etc. La perception est continue, il ne faut pas séparer les registres. Mais bien sûr, tout petit travail est forcément fragmentaire. Simplement, dans le texte que j'avais choisi pour un petit peu travailler, là, devant vous, de façon intéressante, en effet, là, vous avez bien raison de le souligner, le bruit est ce qui, non seulement suggère des choses qu'on ne peut pas voir derrière le paravent, entre guillemets, mais en plus, le bruit est quelque chose qui empêche de voir. Très précisément le texte, je pourrais signaler les endroits, le texte, dès lors que l'orage ou le tonnerre s'exprime, et bruyamment, le texte dit « elle entendait trop pour voir », enfin quelque chose comme ça, de telle sorte qu'il y a là, en effet, ce jeu entre les différents registres auxquels vous en avez. Maintenant, je maintiens que la structure, disons, de l'œil photographique, ou du moins du flash, est dans ce cas-là, dans cet élément de récit tout à fait central, et non pas le bruit. Il y a deux séquences où le bruit intervient dans ce petit cas-là. Mais vous avez raison.
Une apparence de désordre provenant d'un ordre tellement complexe qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, il me semble que ça serait justement ce que vous appelez l'ordre maniaque qui pourrait se prêter à l'analyse chaotique.
Bon, je renvoie la discussion à demain matin, la suite du dialogue à demain matin. D'autres interventions? Tu les vois?
Le monsieur Thibault.
Pardon, monsieur Thibault.
Je voulais dire en contrepoint de l'analyse de Patrick Perry que, du point de vue de l'histoire même de l'art, Zola écrit en pleine débandade, en réalité, de l'impressionnisme, au moment où l'impressionnisme triomphe. Le divisionnisme ou l'impressionnisme scientifique s'installe dans la dernière exposition impressionniste, et que c'est justement cet impressionnisme dit scientifique qui donne naissance aux expressions les plus apparemment désordonnées de l'art moderne à partir du fauvisme. Donc il y a là aussi, du point de vue historique, une manière de vérifier la théorie du chaos.
Oui, en effet. Merci.
Y a-t-il là je ne les vois pas, moi. Merci. Pardon.
Non, c'est juste une petite question pour Charles Grivel. Les remarques que tu as faites sont très, très générales, bien sûr. Enfin, en principe, ne pas s'appliquer à tous les romans, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai pu comprendre, enfin, tu parles du processus de lecture, de n'importe quel roman. Je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y aurait une façon de différencier entre des romans comme, disons, ceux de Flaubert, c'est-à-dire un auteur qui a toujours, je crois, refusé l'illustration, et ceux de Zola? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire?
C'est pour ça que j'ai essayé de prendre un exemple comme celui de l'œuvre, mais j'ai achoppé évidemment au fait que nous ne pouvons nous assurer de la spécificité qu'au niveau du détail. Et ça, c'est pas une chose que l'on peut exposer très facilement. Alors, pour ne pas verser dans la caricature, ou bien pour ne pas me disperser dans la dissémination sans désordre, j'ai été obligé de centrer un mécanisme qui me paraît tout à fait typique de Zola, c'est à savoir le système flash, qu'une obscurité et qu'une instantanéisation composent. Alors cela devrait être vérifié et mis en face de la mise en image de ce texte-là. Malheureusement, les images que j'ai apportées, je ne pouvais pas les projeter. Et les projetant, j'en aurais pour... etc. Donc, disons, considérons ceci comme des propositions théoriques appuyées par quelques détails tirés d'un fragment. La suite restant à prouver, nous avons encore le temps.
Que des pères dieux viennent à mon secours parce que... Bon, merci.
Puisqu'on parle des rapports entre la réception de l'œuvre et l'image, je ne vois pas dans le programme du colloque beaucoup d'études sur les rapports entre le film justement comme interprétation et l'image cinématographique. Or, il y a quand même un problème, c'est justement le choc que peut produire une image imposée dans un texte, à côté d'un texte, hein, et la réaction qu'on peut avoir soi-même, et là je rejoins le propos de Charles Grivel, la réaction intime, c'est-à-dire le rapport personnel avec l'œuvre et l'image qui peut choquer, parce qu'elle ne rencontre pas l'adhésion du lecteur. Et cela rejoint les idées qu'on peut avoir sur l'acteur d'un film correspondant à une œuvre littéraire, où on dit que l'acteur impose son image au personnage du film. Et ensuite, on ne peut plus penser l'œuvre sans avoir le personnage, et surtout quand c'est un grand acteur. Et alors, il y a justement le problème du choix des personnages pour les films. Doit-on prendre un acteur connu, hein, qui impose son image ensuite, ou doit-on au contraire rechercher des acteurs inconnus qui font que l'œuvre continue à parler et on n'impose pas l'image d'un personnage à une œuvre ? Ça, c'est un problème, je ne le vois pas, je ne vois pas à quel moment il pourrait apparaître, et c'est pour ça que j'ai souhaité l'évoquer.
Tu as une idée,
Je ne crois pas qu'on puisse poser, si tant est qu'on ait eu le temps d'en parler, mais je ne crois pas qu'on puisse tellement poser le problème, disons, de la mise en film de Zola comme vous le faites tout de suite. Il m'a semblé, c'est une des choses que j'avais voulu suggérer, c'est que le texte même de Zola,
spécifique par conséquent,
est une préparation à l'accueil filmique. Mais ça, il faut le travailler pour le démontrer. Et pour le démontrer, je me suis servi d'images. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu les montrer. J'ai essayé de montrer comment le texte était déjà une préparation à la structuration d'une image qui venait le percer et l'accélérer de part en part. Et ceci est absolument, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, je le dis sous la table, zolien. Ça, c'est pas flaubertien. Tu peux tourner ça comme tu veux, tu trouves pas ça chez Flaubert. Pas du tout. Hein? Chez Flaubert, le travelling est... c'est les grandes lignes, comme ça. On avance, comme en avançant vers Yonville, ça avance tout droit. Et il n'y a pas cette... Même s'il y a des dispositions, évidemment, focalisantes. Alors, je dirais qu'on devrait d'abord étudier cette position-là. Je crois que le colloque fait bien aujourd'hui d'étudier Zola et l'image, pour commencer. Et ensuite, on pourra mieux discuter peut-être de la mise en film, qui est un propos supplémentaire encore, je dirais. Vous voyez ? Il faut bien répondre aussi, votre avis.
Y a-t-il encore... Je ne vois pas tout le monde. Bon, s'il n'y a plus personne, je vais en profiter pour poser mes deux questions. la première, rebondissant sur le propos de ce qui concerne le film, je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. Je dirais quand même que certains traits de... Ce qui me permettra de poser la seconde question. Certains traits de l'illustration, au XIXe siècle en tout cas, manifestent cette sorte de mise en réserve de ce qui n'était pas inventé, bien sûr, cette mise en réserve d'un traitement cinématographique des récits, etc., dans la mesure où ces illustrations se caractérisent toutes par des traits génériques. Je veux dire que, à la limite, ce sont des illustrations, enfin, de mon point de vue, même si je fais hurler tout le monde, qu'il s'agisse de Zola, de Jules Verne, de bien d'autres, de Hugo, etc., des sortes d'illustrations à la limite anonyme. Bien sûr, tel personnage s'appellera Lantier, tel personnage s'appellera Cosette, tel personnage s'appellera Capitaine Nemo, etc., peu importe. Mais ce sont leurs traits génériques qui sont inscrits et non pas ils n'usurpent pas le personnage, je veux dire, c'est ce qui me frappe le plus souvent. Du reste, il faudrait peut-être, et c'est là ma question surtout, s'intéresser à bien voir que dans tout ce qui a été dit ce matin, et peut-être que j'anticipe sur des choses qui seront dites plus tard, il y a, et même dans cet après-midi, bien voir que nous étudions avec Zola et l'illustration zolienne. Bon, d'une part, le rapport de Zola à l'image, le texte producteur d'image, bon, je laisse là, c'est un domaine ultra riche et qui déborde le cadre de Zola. Mais en ce qui concerne les images sur Zola et d'autres, nous traitons de quelque chose d'éphémère. Je veux dire que c'est plus une pratique, c'est une pratique historiquement située qui n'existe plus. Il ne faut pas reconnaître que c'est un rapport permanent, comme ça. Nous étudions un phénomène précis qui suppose certaines conditions de production des livres, certaines conditions d'illustration des livres et certaines conditions de lecture, avec la nécessité de redoubler en quelque sorte le texte correspondant à l'élargissement du public, d'élargir le texte pour élargir le public. Les choses vont ensemble. En outre, l'illustration hérite de toute une série de techniques, de tout un passé, sinon un passif, et notamment du passage de la publication en livraison avec illustration obligatoire en première page à leur insertion dans un volume. Or, la nécessité d'illustrer des livraisons par une image caractéristique se retrouve et marque la publication en volume et constitue ces séries sur lesquelles on s'est interrogé à plusieurs reprises, qui sont de sorte de séries ponctuelles, de moments signifiants, même si par la suite s'introduisent certaines variétés. On ne peut pas s'en tenir à cette série unique et contraignante, mais enfin qui existe de bout en bout. Bon, elle dépend beaucoup du support original. Et en ce qui concerne les anticipations ou retards par rapport à l'intrigue, au texte illustré, pas oublier non plus qu'il y a un certain nombre de contraintes techniques, mais enfin ça, Ségolène Le Menn, qui va parler tout à l'heure, le connaît bien mieux que moi, notamment sur la place des cahiers. Simplement, l'illustration ne se met pas n'importe où. On n'est pas libre de l'illustration. Il y a que les romantiques qui le croyaient, qui ont inventé à un certain moment la gravure dans le texte, etc., pour vaincre justement cette duplicité de langage. Alors, on manie quelque chose d'éphémère qui s'adapte à des conditions de lecture particulières, qui échappe en grande partie au contrôle de l'auteur. Bien, considérer qu'on travaille sur un artefact, même s'il a l'immense support zolien comme base, et si, dans le cas de Zola, il a eu, et pas toujours, un certain droit de regard sur ses illustrations. Donc, ça me gêne toujours un peu quand on a l'air de considérer que le texte zolien illustré, ou n'importe quel texte du XIXe siècle illustré dans une édition courante, est quelque chose qui pose d'une manière pure les rapports du texte et de l'image, alors que c'est tout à fait d'une manière impure, et peut-être que c'est il n'y a que comme cela, du reste, qu'on peut les poser. C'est quelques réflexions que je voulais faire. La dernière, en ce qui concerne ce que Charles Grivel esquissait, en ce qui concerne cette recherche du détail, chère Naomi Short, d'autre part, que s'agissant de l'illustration potentielle ou de l'illustration réelle, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, picturem, c'est trop du côté de la peinture, disons des scènes iconiques si on veut, enfin le plus petit élément, signification minimale, et je pense, pour les raisons que je rappelais il y a un instant sur les contraintes génériques de l'illustration, qu'il serait intéressant, en effet, une équipe de recherche, de faire un inventaire. Et alors là, du point de vue d'une sociologie de la production romanesque, d'une sociologie de l'iconographie, il serait tout à fait certain, ça a été fait pour d'autres siècles, c'est pour ça que je sais que c'est possible, ça a été fait pour la littérature de voyage au XVIe siècle notamment, de relever cette récurrence de scènes iconiques identiques qui permettent de, à la fois de faire communiquer une famille d'illustrations avec une autre, c'est ça qui compte, et d'autre part de faire communiquer des systèmes de reconnaissance visuelle, étant donné un public codé et connu, avec un système de reconnaissance textuelle, proprement dit. Mais là, je ne connais pas, ça ne connaisse pour le 19e siècle, en tout cas pour la période contemporaine, de travaux allant dans ce sens, mais je pense qu'elle mériterait d'être faite. Pardon ? Il y a l'iconothèque, oui, mais qu'elle soit orientée dans ce sens. Bon, j'ai le sentiment d'avoir usurpé la parole. Et j'entame sans repos. Non, vous souhaitez... voilà. Alors, vous ne souhaitez pas. Bon, on décide que nous ne souhaitons pas
je peux dire quelque chose,
nous reposer. Pardon, oui, veuillez, excuse-moi.
une phrase. Je crois, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit, surtout vers la fin. Au début, encore plus, en quelque sorte, parce que, en effet, c'est ce que j'essayais de dire aussi, ce n'est que dans la mesure où une illustration atteint un certain, standard, je dirais. C'est-à-dire une relative anonymité, n'est-ce pas ? Celle de M. Dupont ou Dumont est plus performante par rapport à son travail dans le texte que celle de M. Rodon ou de M. Fromentin, si on les avait. Bien évidemment. D'ailleurs, la preuve, on ne les a pas. Et ça renvoie en effet à la construction d'une grande banque de l'image et que nous espérons bien faire une fois. Enfin, c'est tout à fait appelé de mes voeux. Bon, ok.
Merci. Je passe donc seconde moitié qui va tourner autour d'une illustration externe, si j'ose dire. Bon, tu t'en occupes où, ici même?
Vous vous mettez ici, et comme ça vous aurez à la fois...
vous serez pas trop mal. D'accord. Bon, cette...